Ça s'inscrit donc dans la série de messages que j'avais prévu donc de vous donner sur l'épître de Jacques. Donc aujourd'hui, on va parler de l'avenir. De l'avenir au boulot, par exemple. Alors, l'avenir, autrement dit, de quoi demain sera fait? Tout le monde s'en pose la question. De tout temps, une véritable obsession chez l'homme. Ce n'est pas nouveau. Que ferons-nous demain? Que mangerons-nous demain? Etc., etc. J'ai regardé un peu dans les documentations. Et selon l'Institut national des arts divinatoires, donc l'INAD, c'est entre 3 et 4 milliards d'euros par an qui sont consacrés à la voyance dans notre pays. Rendez-vous compte, c'est une industrie. Un chiffre d'affaires en hausse, malgré les nombreuses déconvenues, n'est-ce pas? Et on compte à peu près 100 000 pratiquants, 100 000 voyants. Effarant comme entreprise. L'avenir, n'est-ce pas? Une étude de l'IFOP en 2020 disait ceci: un Français sur quatre a déjà eu recours au service d'un voyant au cours de sa vie. Rendez-vous compte. Selon la loi de Moïse, le prophète qui annonçait une prophétie qui ne se réalisait pas était passible de mort. Nous sommes sous le temps de la grâce, n'est-ce pas? Mais imaginez-vous en Israël, passible de mort. Ça, c'est la loi de Dieu. Et on le voit, on peut le lire dans le Deutéronome, chapitre 18, au verset 20, il dit ceci. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Vous voyez, c'est la loi de Dieu. Il semble qu'un vide juridique existe sur la pratique des arts divinatoires avec des abus qui mettent gravement en difficulté des milliers de personnes fragiles ou en détresse. Comment faire pour ces gens qui sont abusés? Quels recours juridiques ont-ils? Zéro. Et pourtant, nous venons de voir la loi de Dieu. Puni de mort. Deux blocs géopolitiques, Est-Ouest, s'affrontèrent pendant plusieurs décennies sans que personne n'ait pu voir venir la chute du mur de séparation. Pardon, je promets un mot. Ça, c'est pour les moins jeunes. Vous avez connu la guerre froide. Pour autant, personne n'a vu venir sa fin. Là, vous avez le mur de Berlin, Berlin-Est, Berlin-Ouest. Et justement, ce mur est tombé le 9 novembre 1989. Historique, n'est-ce pas? Personne ne l'a vu venir. Personne. J'ai noté que 2 ans plus tard, donc c'était en 1991, la chute de ce mur a entraîné avec elle l'éclatement de l'Union des républiques socialistes soviétiques. N'est-ce pas? Tout a éclaté. Impensable il y a quelques années. Mais personne ne l'a vu venir. Il me semble que l'histoire est un perpétuel recommencement. Et nous y sommes. L'idée de la Grande Russie. Ça a éclaté il y a quelques années, mais non, ça n'a pas servi de leçon. Il faut refaire pareil. La Grande Russie. Là encore, dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, qui peut prédire la fin des hostilités? On est en plein dans la question de l'avenir. Qui peut prédire la fin des hostilités? Qui n'a pas regardé les prévisions météo avant de sortir? Ou qui ne regarde pas souvent? C'est plutôt rare. Mais j'avoue que c'est un exercice favori, en tout cas, de bien de nos concitoyens. Tiens, que dit la météo demain? J'ai noté que la météorologie, elle est faillible, quoique nécessaire. Ce n'est pas une science exacte. C'est d'ailleurs un jeu très favori. Ah tiens, la météo avait prédit un beau soleil aujourd'hui. Eh bien, j'ai pas pris le parapluie. Eh bien, voilà, ouais, la pluie est tombée. Donc, un exercice favori pour dire, là encore, qu'au-delà de tous les outils dont nous disposons, pour ce qui est des intempéries, difficile d'être très précis. Pourtant, les intempéries sont maîtrisables. C'est ce que le frère nous a prêché la dernière fois. Souvenons-nous, le Seigneur dans la barque. Quel est donc celui-ci, parlant de Jésus, qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Voilà quelqu'un qui maîtrise le temps que nous connaissons. Bien sûr, le chrétien n'est pas hors de l'espace-temps. Mais alors, comment vit-il ou doit-il vivre avec les incertitudes de l'avenir? Regardez dans une boule de cristal, au second degré du mot, je dirais, puisqu'il s'agit de chrétien, ou alors se résigner sur la tournure des événements. Nous verrons ensemble ce matin que dit Jacques dans son épître. Pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Jacques au chapitre 4. Nous lirons les versets 13 à 17. Jacques 4. 13, 17. Alors, si tout le monde a trouvé, je lis. À vous, maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. De ce texte, donc, j'en ai donné un titre pour mon message, c'est le croyant, comment regarder l'avenir. Et la première question qui se pose, c'est de savoir à qui Jacques adresse ce message. À qui s'adresse-t-il? Un rappel, souvenons-nous que le message central de l'épître de Jacques, c'est la foi en action. C'est ce que j'avais rappelé la dernière fois. Un message destiné à la diaspora juive et aussi aux juifs qui étaient partis de Jérusalem suite à la persécution, afin qu'ils soient encouragés dans leur foi, qu'ils puissent résister à toutes les péripéties et que leur foi soit active. Alors, clairement, le message de Jacques s'adresse à des croyants, à des chrétiens. Il commence par « à vous », donc « à vous, croyants, à vous, chrétiens ». Jacques parle donc à des chrétiens, vraisemblablement à des commerçants, qui plus est, zélés pour leur travail. Car il parle à des commerçants. Aujourd'hui, on parlera d'hommes d'affaires, à des négociants, chrétiens. On le voit au verset 13. Nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Aujourd'hui, on dirait que c'est des businessmen, c'est des hommes d'affaires. On ira à Dubaï, on ira à Taïwan, voilà, on va faire des affaires et puis ben, on va prospérer. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'un reproche sur le zèle pour son travail. Loin s'en faut. C'est pas ce que Jacques dit. Il ne leur reproche pas d'avoir une activité qui prolifère, une activité qui est florissante, qui est abondante. Et d'ailleurs, plusieurs textes dans le livre des Proverbes donc le souligne, donc j'en ai relevé quelques passages. Ici, en Proverbe 14, 23, il est dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Voilà, c'est un encouragement au travail. Dieu l'encourage. Aussi, en Proverbe 18, 9, il est dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Dieu n'est pas contre le travail, Dieu n'est pas contre une activité professionnelle intense. Bien au contraire, c'est un commandement de Dieu. Tu mangeras à la sueur de ton front. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Donc vous avez tant d'exemples dans l'Écriture qui montrent effectivement que Dieu nous exhorte au travail. Donc là n'est pas le propos. Jacques n'est pas en train de dire à ses commerçants, non, vous n'avez pas le droit de gagner de l'argent, vous n'avez pas le droit de travailler aussi intensément. En revanche, Jacques les met en garde contre leur confiance excessive en l'avenir. Pourquoi? Ces hommes se vantaient de leurs grandes entreprises et de leur succès avec arrogance. Verset 16. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Voilà ce que Jacques reproche à ces hommes d'affaires. J'ai noté se glorifier. On retrouve le moi qui nous est cher, n'est-ce pas? Notre vocation dans ce monde n'est pas de nous glorifier. On le voit autour de nous, l'homme cherche sa gloire. Mais non, nous ne sommes pas ici pour nous glorifier. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas ce à quoi Dieu s'attend de nous. Nous sommes sauvés d'abord pour servir le Dieu vivant et vrai. Paul, en Galates 6, verset 14, le rappelle très bien. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Paul n'a pas cherché sa gloire. D'ailleurs, il dit « Soyez mes imitateurs ». Avons-nous à nous glorifier dans ce monde? Non. C'est un reproche légitime de Jacques, ici, pour ses hommes d'affaires. Deuxième point, l'orgueil. Toujours en relation avec le moi. Trouvez une définition dans le Larousse qui dit ceci. L'orgueil, c'est le sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Exemple, être bouffi d'orgueil. Clairement, une estime excessive de soi-même. Donc, vous voyez, encore le moi. En Romains 12, 3, on peut lire ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. N'ayons pas une trop haute opinion de nous. Et vous voyez, c'est proportionnel à la foi, à la mesure de la foi. Plus nous grandirons dans la foi, moins nous aurons une trop grande opinion de nous-mêmes. Vous voyez, donc c'est inversement proportionnel. Pourquoi? Pourquoi Paul dit ceci? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. C'est Jacques qui le rappelle au chapitre 4 et au verset 6. Il résiste aux orgueilleux. J'ai noté qu'à défaut de se glorifier et de s'enorgueillir de ses projets d'avenir, il faut s'en humilier. Il faut prendre le pendant opposé. Il faut s'en humilier. Mais alors, comment s'humilier devant ses projets. C'est le troisième point que j'aborde ici, à savoir comment regarder l'avenir avec humilité. Ça, je ne vous l'apprends pas, tout le monde le sait. Seul Dieu connaît l'avenir, puisque l'avenir sera ce qu'il aura décidé de faire arriver ou de laisser arriver. J'ai donné plusieurs exemples tout à l'heure de faits d'avenir totalement imprévisibles. Mais on le sait, cela n'a pas échappé au Seigneur. Lui le sait. Pourquoi? Ben, déjà, parce que Dieu est au-dessus du temps et de l'espace. Il est le Créateur. Nous, nous vivons dans le temps et dans l'espace. Dieu, il est au-dessus. Normal. Il est le Créateur. Donc, il sait tout ce qui arrivera. Rien n'arrive et que Dieu soit pris au dépourvu. Absolument pas. Il sait toutes choses. À moins d'une révélation de Dieu, l'homme n'a presque aucune idée de ce qui se passera d'ici un an. Voire aucune certitude quant à ce qui se passera demain. N'est-ce pas? Aucune. On ne sait de quoi demain sera fait. C'est bien la question de l'avenir que j'ai évoquée en introduction. Nos projets d'avenir doivent être envisagés avec humilité en nous souvenant de plusieurs choses. Premièrement, qu'ils doivent s'accorder avec la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point. On le voit au verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Mon projet est-il en accord avec la parole de Dieu? Ça, c'est la première chose que nous devons regardez, Jacques, ici, s'adresse à des croyants. Et manifestement, ces croyants ont omis une règle fondamentale, puisqu'il est dit au verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, croyant, donc c'est des croyants, et qui ne le fait pas, commet un péché, ce qu'on appelle le péché d'omission. » Tout aussi coupable que le péché de commission, le péché où on enfreint délibérément la parole de Dieu. J'ai plusieurs exemples comme ça dans l'Écriture, et là, je vous en cite un autre, souvenons-nous de David, lorsqu'il décida de ramener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Quel beau projet, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu était-elle respectée sur tous ses aspects? Que du reste, David n'y aurait pas. Le sacerdoce dédié à l'Éternel était strictement réservé aux Lévites. Et on se rappelle du geste de Uzza, frappé de mort pour avoir touché l'arche. Et David en a été affecté, il en a pleuré, vous en souvenez. Mais il n'ignorait pas que le service de Dieu était réservé aux Lévites. Voilà un exemple de péché d'omission. Et là, la sanction de Dieu
été implacable pour montrer à quel point c'est important donc de veiller sur tous ces aspects. Alors ça, c'est le premier point. Il faut que nos projets soient en phase, s'accordent avec la parole de Dieu. Quelque part, la volonté morale de Dieu, ce que dit l'Écriture. Ensuite, deuxième point, s'assurer que leur aboutissement dépend de la souveraineté de Dieu. La volonté souveraine de Dieu cette fois-ci. Nos projets doivent être sous la volonté souveraine de Dieu. Alors, comment devrions-nous parler de nos projets selon Jacques? Il le dit, si Dieu le veut, d'abord, on doit commencer par là. Si Dieu le veut, d'abord, nous vivrons. C'est la question. Qu'est-ce qu'un projet lorsqu'on n'est pas en vie? Donc, d'abord, nous vivrons. Et ensuite, nous ferons ceci et cela. Voilà ce que dit Jacques. Comment nous devons procéder par rapport à nos projets. Pourquoi nous vivrons? La réalité est que nous ne savons même pas si nous serons en vie demain et encore moins d'ici un an dans des projets futuristes. Voilà le cœur de l'homme. Verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Pourquoi? Car qu'est-ce votre vie dans l'immensité de l'espace et du temps? Qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. Voyez comment c'est disproportionné. Combien c'est disproportionné. Pour le prophète Osée, par exemple, la vie de l'homme, ce sont à peine quelques heures. Chapitre 13, verset 3, il dit ceci, c'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Alors j'ai été large, quelques heures. Une fumée qui sort d'une fenêtre, c'est des fractions de quelques minutes, c'est pas quelques secondes. Vous voyez un peu le parallèle que le prophète Osée fait par rapport à la vie de l'homme. L'Écriture en donne plusieurs exemples. David, il en parle. Qu'est-ce que la vie de l'homme? 70 ans. Les plus robustes, 80. Vous voyez où il y a plein de parallèles comme ça sur la vie de l'homme. Alors, regardons ensemble la parabole du Seigneur lui-même, qu'il a donné en Luc 12, au verset 16 à 21, qui dit ceci, le Seigneur lui-même qui donne cette parabole, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai deux plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc voyez-vous un exemple qui corrobore les propos de Jacques ici, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Dans d'autres textes de l'Écriture, le Seigneur lui-même a beaucoup parlé de l'avenir, mais le Seigneur nous met en garde contre une inquiétude excessive. Donc voilà un texte, par exemple, en Matthieu 6, 34, Seigneur qui parle, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Une inquiétude excessive et une confiance excessive en l'avenir. Voyez-vous? Il y a donc un équilibre à trouver entre les deux. La parole de Dieu n'est à aucun moment en contradiction. J'ai noté qu'en utilisant systématiquement l'expression « si Dieu le veut », on prend le risque de la vider de sa portée. Face à tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas être dans une attitude systématique de dire « Eh bien tiens, je vais chercher ma voiture, je reviens te prendre dans 5 minutes, si Dieu le veut. » Donc ça n'a pas de sens. Donc la locution perd de sa portée. En revanche, l'utiliser pour nos projets à court ou moyen terme nous rappelle qu'effectivement, ils n'aboutiront que si Dieu le veut. Voilà un peu la mesure que nous devons prendre sur nos projets. L'apôtre Paul utilise par plusieurs fois l'expression « si Dieu le veut ». C'est donc biblique d'en user. C'est une locution qui est biblique, fondée bibliquement. J'ai relevé quelques exemples. Paul qui parle, dans ses voyages missionnaires, « Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. J'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. J'espère demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet. » Donc voici des expressions qui sont synonymes et qui nous rappellent effectivement en quoi nos projets doivent principalement être en conformité avec la parole de Dieu d'une part et d'autre part soumis à sa volonté souveraine. Donc voilà, donc des expressions synonymes que nous devons chaque fois utiliser parce que c'est biblique. Pour conclure, donc j'ai noté la foi en action, telle est l'exhortation de Jacques. Alors, mettons en pratique ce que nous savons lorsque nous pensons à l'avenir et dans tout autre domaine de nos vies. Omettre de faire ce que la parole de Dieu ordonne est tout aussi condamnable que de commettre délibérément un péché que Dieu interdit. David le disait souvent, « Seigneur, sonde-moi et montre-moi le chemin de la justice. Les péchés de commission, on les connaît. Mais combien sommes-nous faillibles devant des péchés d'omission? Nous devons prier, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi et montre-moi si je suis sur le chemin de la justice. Tant ceci est important. Dieu nous demande de fuir le mal et en même temps de poursuivre le bien. Le péché par commission, ça on le sait, c'est le mal, c'est interdit. Mais en même temps, Dieu nous demande de poursuivre le bien. J'ai noté que c'est par là même que nous mesurons le prix que Christ a payé pour notre rédemption éternelle. N'est-ce pas? Quel salut! Quelle grâce! Nous sommes pardonnés pour tout cela. Des péchés, par commission, des péchés qu'on aurait omis, ou du moins des actes que nous aurons commis par omission et qui se révèlent être des péchés. Combien Dieu est bon, combien le Seigneur, dans sa grâce, veille sur nos vies. Donc voilà l'enseignement que je voulais vous apporter ce matin sur l'avenir, toujours dans la continuité donc des messages que nous aurons sur l'épître de Jacques, et que Dieu bénisse l'enseignement de sa parole. Amen.